Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
L'Église, tu as dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église. » Et tu as dit « Les portes de l'enfer ne prévaudraient point contre elle. » Ce que tu voulais dire, c'était que la mort physique, même si on tentait de mettre à mort tes disciples, l'Église continuerait quand même. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tes disciples se faire martyriser l'un après l'autre, sauf Jean qui est mort de vieillesse, mais qui a quand même été exilé pendant un bon bout de temps sur l'île de Patmos. Le malin a tout fait pour éteindre cette Église. Et dans chaque génération, il y a un antagoniste à notre foi. Il y a un antagoniste à ton projet, qui est l'Église. Et tu as servi de prophète, Seigneur Dieu, lorsque tu étais sur la terre, Seigneur Dieu, tu agissais en qualité de prophète. Et tu annonçais d'avance qu'est-ce qui allait se passer durant la période de l'Église. Et c'est pour nous aujourd'hui, ces paraboles-là, un outil pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le royaume spirituel? Qu'est-ce qui se passe durant la période du mystère? Aide-nous à enlever le voile, aide-nous à comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde, afin qu'on puisse se préparer à ton deuxième retour. Au nom de Jésus, amen. Alors, on va commencer direct le message comme ça. On va commencer avec une définition. J'imagine, Juliane, que tu as reçu le PowerPoint. Good, super. Titre du message, parabole 3, le sous-titre « Deux antagonistes ». Larousse dit qu'un antagoniste se dit d'une personne qui s'oppose dans une lutte idéologique, dans un conflit. Et quand c'est attribué à nos gènes, le dictionnaire dit que c'est une substance qui se fixe sur les mêmes récepteurs cellulaires qu'une substance de référence en empêchant celle-ci de produire tout ou une partie de ses effets habituels. J'ai trouvé que le mot « antagoniste » était le meilleur mot pour les trois paraboles qu'on va voir aujourd'hui. Donc, avec cette définition-là en tête, on va voir que Jésus nous a prévenu que durant la période de l'Église, il y aurait des antagonistes, des choses qui viendraient se placer à la place de l'Église pour empêcher cette Église ou ce chrétien de produire les effets habituels de ce qui serait supposé, censé de produire. Jésus, quand il a dit « Je bâtirai mon Église », c'est beau, les gens vont croire en lui, ils vont avoir la vie éternelle, ils vont être délivrés du péché, ils vont avoir une vie abondante. Mais avec ces promesses viennent aussi des contrefaçons, des choses qui vont venir empêcher cette croissance-là. Et la première parabole qu'on veut regarder aujourd'hui, c'est la parabole de l'ivraie et du blé. À gauche sur l'écran, vous avez l'ivraie. À droite, vous avez le blé. L'antagoniste dans cette parabole-là, c'est l'ivraie. L'ivraie qui vient prendre la place du blé dans le champ. On lit ça dans Matthieu 13 au verset 24 et on va le lire jusqu'au verset 30. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur ou maître, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Verset 28, il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Tu veux-tu qu'on aille l'arracher? » Le maître répond, verset 29, « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, puis liez-la en gerbe pour la brûler et amassez le blé dans mon grenier. » Donc, dans cette ère qui est l'ère de l'Église et de la Grande Tribulation, ça, et on va le regarder sur la ligne du temps tantôt pour se rappeler des derniers messages, mais durant l'ère actuelle qu'on appelle l'ère du mystère, c'est une période de temps où il y a une action de semer du blé qui est copiée par une autre action. Il y a le compétiteur, si on veut dire, qui lui dit « Moi, je veux pas que ce champ-là réussisse comme il devrait. » Fait qu'il vient semer dans ce champ-là pendant que les gens dorment. Il vient semer un autre type de semence qui, elle, n'est pas comestible, peut-être même poison. Et donc, il y a une apparence qui est pareille au blé. Plus, quand il est tout petit, le blé, puis les vrais, est presque pas dissociable parce que les grains sont pas encore dans l'épi. Alors, ça continue à grossir, cette affaire-là. Puis, il y a une différence, à un moment donné, c'est que le blé commence à se courber. Il commence à se courber parce qu'il y a un grain qui est à l'intérieur, donc beaucoup plus de poids. L'ivraie est presque, c'est presque pas un fruit, ou un légume plutôt. Donc, l'ivraie ne produit pas de fruits ou peu de fruits et à maturité va devenir droit, orgueilleux, comme une tête vide. Hein? Et donc, le fermier, il peut être tenté d'aller arracher ce qui ne représente pas la semence initiale parce qu'elle utilise les nutriments du sol, elle prend la place du blé qui devrait être là, puis ça représente pas son idée initiale d'avoir un champ de blé. Donc, on pourrait dire, moi, je m'en vais dans le... dit que le blé, c'est une céréale. Moi, c'est pas que j'en mange pas, fait que je connais pas ça. Donc, des céréales, pas des légumes ni des fruits, des céréales. Mais c'est bon. Très bonne. Merci de m'avoir corrigé. Donc, je manque de batterie pour mon message. Non, c'est une joke. Je manquais de batterie pour mon son. Le fermier est tenté d'aller, mais parce qu'elle prend la place du blé, etc., mais Jésus nous dit que ce qu'il va faire, il va laisser faire. Fait que l'Église ne sera pas ce qu'elle est supposée d'être dans le monde nécessairement. Puis Jésus, il est l'auteur de l'Église, il est celui qui a fondé l'Église, puis il dit « on va laisser faire ». Puis donc, il y a deux plantes qui grandissent ensemble. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un jugement à la fin du royaume des mystères. Donc, si il y a eu la période de l'Église, puis viendra les 7 années de tribulation, puis finalement, ce jugement-là, il va avoir un jugement à la fin qui va servir à séparer ceux qui entreront dans son royaume et ceux qui n'y entreront pas. Il y a, je résume, 5 choses qui reflètent le royaume de Dieu. Il y a d'abord le royaume éternel, le royaume spirituel. Il y a eu dans le passé le royaume théocratique. Le royaume du mystère, c'est celui dans lequel nous sommes présentement, et le millénium. Dans l'échelle du temps, le royaume éternel dure depuis toujours. C'est Dieu qui est roi sur toute la création. Il y a, dès qu'il y a eu le premier homme jusqu'au dernier homme sur la terre, il y a le royaume spirituel. C'est celui que quand une personne accepte que Dieu soit le roi de son cœur, de sa vie, que ce soit son maître. Puis, il y a eu une période de temps dans l'histoire où il y a eu Dieu qui régnait de façon théocratique sur un peuple. C'était le peuple d'Israël. Puis plus tard, un jour, il y aura le royaume millénaire, ce sera où Dieu lui-même règnera sur la terre. Puis, présentement, nous sommes dans le royaume des mystères. Donc, dans le temps, qu'est-ce que ça nous montre? C'est de ça que je veux parler ici, de la deuxième venue de Jésus. Jésus est venu premièrement comme un sauveur, il va venir une deuxième fois comme un juge, et il va faire ce qu'on appelle le jugement des nations. On va regarder ça ensemble. Prochaine acétate, s'il vous plaît. Donc, si on regarde ça un petit peu plus grand, donc c'est la partie ici qui est éclatée, un peu plus grande ici. À la Pentecôte, ça a commencé la période de l'Église. Puis, dans la Grande Tribulation, l'Église ici est enlevée dans les cieux. Les gens qui ont reçu le don de la vie éternelle sont épargnés de la période de tribulation qui va durer 7 ans sur la terre. Mais la période des mystères continue, c'est-à-dire qu'elle continue jusqu'au jugement des nations ici. Durant la période du royaume des mystères, qu'on voit bien ici, Je ne sais pas si ça. OK. Fait que, une autre façon de le montrer, c'est que Jésus-Christ est venu. Et quand on regardait dans le passé, on attendait un Messie qui était pour venir. On attendait le Sauveur du monde qui était pour venir sur la terre. Son peuple ne l'a pas accepté. Youhou! Fait que, c'est pas le fun qu'il ne l'ait pas accepté, mais mon dessin à l'écran est le fun. Donc, il est venu comme un sauveur, mais il devra attendre avant d'être le maître parce qu'on n'a pas voulu de lui. On l'a crucifié, puis son peuple n'a pas rien voulu savoir de lui. Donc, le règne millénaire, c'est-à-dire le règne où c'est Dieu par Jésus-Christ qui vient régner sur la terre, est reporté à plus tard. Et vient s'ajouter une période qui n'était pas prévue parce qu'elle n'était pas obligatoire, c'est la période du mystère, c'est-à-dire quelque chose qui était caché du regard d'une personne avant la venue de Jésus et qui a été maintenant dévoilé, la période du mystère. Le mystère n'est pas quelque chose d'incompréhensible, mais quelque chose qui avant était caché puis qui a été rendu accessible à nous. Dans cette période-là, on pourrait l'appeler aussi la période de la porte. C'est la période où Jésus dit « Je suis la porte et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jésus se présente comme le sauveur du monde et ailleurs dans Jean 14, 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » C'est une période de porte étroite. Pourquoi elle est étroite? Parce que beaucoup pensent à une porte large pour être sauvé. Par exemple, si j'ai été une bonne personne toute ma vie, ça devra me laisser entrer dans le royaume. Si j'ai souffert beaucoup dans ma vie, ben j'ai payé pour ça, je devrais rentrer. C'est une porte qui est large. Puis Dieu y amène l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est oui, tu peux rentrer dans le royaume, mais la porte est étroite. Et cette porte-là, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Il est le seul par lequel l'homme puisse être sauvé. Et donc, c'est une période de porte ouverte, mais va venir un temps où il va y avoir une porte qui va se refermer. Là où est ma flèche et la porte se referme. Ce n'est plus le temps d'être sauvé, c'est maintenant le temps du jugement des nations. Et donc, la parabole de l'ivraie nous amène là parce qu'elle dit au jugement va venir. Bien, Jésus l'explique la parabole. Donc, dans la période du mystère ici qui a été dévoilée, qui est la période de l'Église et de la Grande Tribulation, le blé. Et l'ivraie implique que durant cette période-là, il y aura des gens qui sont véritablement sauvés et d'autres qui sont, ils paraissent être sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. OK? Et même les non-sauvés vont arriver à nuire et à nuire à d'autres à être sauvés, puis ils vont eux-mêmes ne pas être sauvés. Et Jésus explique la parabole, regardez au verset 36, on va le lire jusqu'au verset 43. « Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » C'est la deuxième parabole que Jésus explique. La première qu'il a expliquée, c'était les quatre terrains, hein, la semence qui est tombée dans quatre terres différentes. Celle-là aussi, il l'explique. C'est la première puis la troisième. Intéressant. Donc, il leur dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, on peut lire à l'écran. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Le verset continue en disant, « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Dans cette parabole-là, le semeur, c'est Jésus-Christ. Le champ, ce n'est pas l'Église, c'est le monde. Il dit, « Le champ, c'est le monde. » Hein? C'est important. Le champ, c'est le monde. Parce que ça dit, attendez à la fin, puis on va voir qui. Parce que Jésus, dans Matthieu 18, il dit, si ton frère a péché, qui a commis l'iniquité, va le voir, puis reprends-le, toi, lui seul. Donc, c'est pas vrai que tu attends au jugement dernier pour que tout ce qui est péché soit corrigé. Par contre, dans le monde, tu t'en vas pas cogner chez ton voisin, tu dis, hey, tu vis dans le péché, si tu te repens pas, je vais venir avec un autre frère, puis on va venir te corriger. Tu sais, on va venir te... Par contre, dans l'Église, on a cette règle de vie-là qui est, non, on participe à la sainteté de Dieu. Donc, le champ, c'est le monde, c'est pas l'Église, puis la moisson, c'est le jugement de la fin du monde organisé. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a plus rien. Ça ne veut pas dire qu'après, tout est anéanti. La Darby dit que c'est la consommation des siècles. C'est la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Parce que va venir quelque chose après. Ça ici, c'est le temps des nations. On est dans le temps des nations ici. Mais là, ça va être le temps du Messie. C'est Jésus-Christ lui-même qui va venir régner sur la terre, la paix, la justice. C'est comme, c'est pas les royaumes de la terre, là. C'est le royaume du Fils de Dieu, hein? Donc, c'est la consommation des siècles. Donc, à la consommation des siècles, à la fin du monde ou à la fin de la civilisation organisée telle qu'on la connaît. Et les moissonneurs, Jésus dit, ce sont les anges. Donc, les gens qui sont arrachés ont deux caractéristiques. Les anges viennent avec Jésus-Christ et avant que le millénium s'établisse, il y a encore des gens qui sont vivants sur la terre et il va y avoir un triage entre ceux qui rentrent dans le royaume. Hein, ils rentrent dans le royaume de leur père, puis ceux qui sont arrachés du royaume, puis jetés dans le feu. Deux caractéristiques, tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Premièrement, ceux qui sont arrachés, ce sont les scandales. Pensez toujours à la parabole de l'ivraie, parce que Jésus venait d'utiliser l'ivraie et le blé. Okay? Un scandale, en grec, c'est scandalon. Scandalon, ça peut être un piège, quelque chose qui était vraiment fait pour piéger quelqu'un, pour le faire prisonnier. C'est quelque chose qui soit te fait trébucher ou quelque chose que tu es obligé de retourner de bord de ton chemin. Scandalon. Jésus dit dans Matthieu 18, 7, « Malheur au monde à cause des scandales, malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. » N'oubliez pas, le gars qui a semé son champ, il regarde et il dit, « Ah non, 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 pas de livret ici. » Ça va nuire à ma récolte. Ça ne sera pas bon pour le blé qui est autour. Ça va empêcher des jeunes plants de se développer. Ça va faire quelque chose. Qu'est-ce qui est un scandale dans le monde? Être un scandale dans le monde, c'est d'avoir été la raison pour laquelle une personne est tombée d'une marche par la foi ou qui a fait demi-tour quant à la foi. À cause de moi, quelqu'un n'a pas placé sa confiance en Dieu pour la vie éternelle. À cause de moi, quelqu'un allait bien dans sa marche avec Dieu, puis elle s'en est fait à demi-tour, puis elle a abandonné sa marche, sa croissance. Le champ a été impacté. Malheur au scandale. Jésus était un scandale. À cause de lui, beaucoup de gens ne crurent pas ou firent demi-tour concernant la foi. Vous le savez ça dans les évangiles. Il était pour eux une occasion de scandale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la manière que Jésus opérait, la manière qu'il parlait, la manière qu'il était, il était tellement opposé à ce qu'ils avaient comme conception quand le Messie viendrait, il agirait ou il parlerait, qu'ils ont dit, c'est sûr que ce n'est pas le Messie, puis ils sont détournés de lui. Il est devenu donc une occasion de chute pour eux, pour qu'ils ne croient pas. Mais le problème, ce n'était pas lui. C'était leur manque d'humilité d'accepter qui Jésus était. Mais quand c'est appliqué à Jésus-Christ, c'est pas lui qui a péché, c'est les hommes qui ont péché en ne croyant pas en lui. Ils ont resté attachés à leur vieille croyance. Mais quand c'est appliqué aux hommes, c'est que des gens ont servi de piège pour qu'une personne ne croit pas ou cesse de suivre Dieu dans le monde ou dans l'Église, parce que le champ, c'est le monde. Ils sont utiles pour le compétiteur, pour qu'une personne ne se souvienne pas à la foi pour être sauvée ou qu'elle ne porte pas de fruits pour Dieu. Ils sont des gens qui causent des intrigues dans les églises ou au sujet de l'église et les gens s'en détournent. Les gens se détournent de la foi. Ce sont ça peut être des personnes en tête de mouvements religieux qui sont un objet de scandale, c'est-à-dire où ce que les gens disent, c'est ça des chrétiens, puis là les gens vont se détourner de la foi en Dieu. Ça peut être des professeurs qui enseignent vos enfants, vos petits-enfants à l'école que Dieu n'existe pas avec véhémence. Ils veulent proposer l'évolution et en arrière de ça, il y a cette idée-là, il n'y a pas de créateur. Puis je veux mettre dans la tête de ces petits jeunes-là le plus vite possible qu'il n'y en a pas de créateur. Leur intelligence obscurcie. les emmener dans les ténèbres et ils conduisent d'autres enfants dans les ténèbres. Malheur à celui qui offense ou scandalise un de ses plus petits, Jésus va dire. Vaut mieux à cet homme-là qu'il soit pas né, hein? C'est ce que Jésus va dire. Fait que Jésus, il parle souvent des scandales, c'est que dans le fond, dans le royaume des mystères, il y a cette idée-là qu'il y a de l'ivraie qui vient nuire à la récolte, il vient empêcher d'autres petits de naître, d'autres personnes d'arriver à la foi avec Dieu. Ce sont donc des gens qui sont des obstacles, des antagonismes. Donc, dans cette parabole-là, l'antagonisme aux chrétiens dans le monde, si on pourrait dire aux vrais chrétiens dans le monde, c'est celui qui en a l'apparence ou encore qui fait des intrigues concernant l'Église et Jésus. Le maître dit quoi? On attend, on ne les juge pas tout de suite, parce que si on les jugerait tout de suite, on nuirait au reste autour. Fait que Dieu dit non, on le laisse pousser. Il va être parmi le monde, il va être parmi l'Église, il va avoir de l'air d'un chrétien, il n'en sera pas un. Comme dans Matthieu 7, des gars qui ont prêché l'Évangile, qui ont chassé des démons, puis les gars ils disent, crime, est-ce qu'on n'a pas chassé des démons en ton nom? Puis il va dire, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Le deuxième point qui est amené dans cette raison-là, pourquoi les anges vont arracher ces plants-là qui dépassent les autres plants d'une tête, hein, parce qu'ils n'ont pas de fruits, c'est parce qu'ils ne produisent pas le fruit de la justice, ou ils produisent l'iniquité à la place. Donc, l'iniquité, ça veut dire l'injustice, ça veut dire le péché. Ici, dans le passage, une personne qui commet l'iniquité, ça ne veut pas dire une personne qui n'a jamais fait d'œuvre pour Dieu. Mais, écoutez bien, ils n'ont pas reçu la vie éternelle de Jésus pour pouvoir porter le fruit de cette vie-là en eux. Donc, ce n'est pas premièrement un problème d'action, mais un problème de semence. Dans le passage, il dit, il y a une semence qui était du blé. Qu'est-ce qu'elle va produire? Elle va produire ce qu'elle a comme... Qu'est-ce qu'il y a dans la... OK, on recommence. Qu'est-ce qu'il y a dans la semence? Il y a un champ de blé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans le levain? Un champ de levain. Qu'est-ce qu'il veut faire, le levain? Multiplier le levain dans le monde. Qu'est-ce que le blé veut faire? Il veut multiplier, qu'est-ce qui est dedans lui? La justice de Jésus-Christ. Donc, ces gens-là sont des gens qui n'ont pas reçu la vie éternelle et ne peuvent pas participer à sa sainteté ou à sa vie pure. Ça se manifeste par les œuvres. Donc, je disais, je pense que je reviens ici, on a une porte étroite qui est ouverte pendant un certain temps, durant la période des mystères, et qui va se refermer ici au jugement des nations. La porte qui servait aux hommes de rentrer dans le royaume va venir être la porte qui va se refermer sur eux. Jésus-Christ, qui est la porte, le seul moyen par lequel on peut rentrer, va être aussi le moyen par lequel on est chassé en dehors du royaume aussi. Il est la même porte. Dans Actes 17, au verset 29, il dit, « Dieu réserve un temps. » Et là, présentement, il a fixé un temps où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus sauveur, Jésus juge. Jésus porte ouverte, Jésus porte fermée. Présentement, on est dans une période de porte ouverte. Les paraboles prochaines, ça va être la parabole d'un terrain qui avait quelque chose de bien précieux dans ce champ-là. Puis, une autre parabole, ça va être une parabole d'un filet qui est jeté, puis qu'il y a beaucoup de poissons qui viennent dans ce filet-là. Ça va être des paraboles de aller chercher le monde. La porte est ouverte. Faites rentrer. Comme l'arche de Noé, c'est le temps. Voulez-vous, là, il y a un jugement qui s'en vient, là, mais si vous voulez de la place pour vous, pour vos enfants, Dieu va commencer quelque chose de complètement nouveau. C'est le temps. La porte est ouverte. Il va venir un temps où c'est Dieu lui-même qui va fermer la porte, comme dans l'arche, c'est lui qui a fermé la porte. Et la porte ouverte sur le monde, sur le royaume de Dieu, va devenir la porte fermée pour une personne qui, durant la période du royaume du mystère, a rejeté, a refusé le Messie. Hein? Et donc, Jésus dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer, ne le pourront pas. » Quand le maître de la maison se sera levé et fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Il répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « On a mangé et on a bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob, ici, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, le royaume millénaire, et que vous, vous serez jetés dehors. » Luc 13, versets 24 à 29. Alors, il y a une période de porte ouverte et il y a une période où il y a la porte qui se ferme ici. Puis j'ai mis GTB ici, grand trône blanc, parce que le texte dit que le foin, pas le foin, mais l'ivraie qui a été ramassé, qui n'a pas porté le fruit qui était supposé de porter parce qu'il n'a pas été semé par Jésus-Christ, lui est arraché du champ. Puis ici, il n'y a pas de séquence d'événements dans la parabole. Ça dit, il est jeté au feu. Puis le reste, le blé, il passe, puis il vient dans le grenier. On pense être le royaume. Bien, ce que le texte dit, c'est le royaume du Père. Mais il y a une période de 1000 ans ici. Mais c'est un jugement selon les œuvres. Et c'est pour ça que Jésus dit « ouvriers d'iniquité » parce que les œuvres vont tenir compte, Dieu va tenir compte de toutes les œuvres qu'une personne va avoir faites. Il y a un livre qui sera ouvert, puis des livres qui seront ouverts dans Apocalypse chapitre 19. Dans le livre de la vie, le livre des vivants, si une personne n'a pas cru durant le temps qu'elle était sur la terre, son nom est effacé du livre des vivants. Si pendant qu'il est sur la terre, il croit au Seigneur Jésus-Christ, son nom reste écrit dans le livre des vivants. Et dans l'autre livre, il y a le livre de vie de l'agneau. Ce sont ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ seulement, pas dans leurs œuvres, mais dans la porte étroite de Jésus-Christ. Eux autres sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Or, dans le texte d'Apocalypse 19, c'est écrit ceux qui n'étaient pas écrits dans le livre des vivants, de vie, le livre de vie. Ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie, après, une fois qu'on vérifie ça, la prochaine chose qu'on vérifie, c'est qu'on rouvre le livre de Jean-Claude, le livre de Ginette, le livre de Stéphane. On rouvre le livre et on est jugé d'après toutes les choses qu'on a faites, qu'on n'aurait pas dû faire, toutes les bonnes choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites, toutes les pensées qu'on n'aurait pas dû avoir. Et on est jugé en qualité de jugement dernier. Ce jugement-là ici, c'est le grand trône blanc, où tous les hommes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur sont jugés. Pourquoi est-ce que nous, c'est pas comptabilisé comme étant, on n'est pas comptabilisé comme des ouvriers d'iniquité? Parce que Jésus-Christ a payé la dette de toutes nos iniquités et de tous nos péchés. Le châtiment que nous méritions est tombé sur lui. Mais si je persiste à dire que je suis une bonne personne et que je ne refuse Jésus-Christ, je garde mes iniquités et mes iniquités vont être comptabilisées devant le grand trône blanc. C'est incroyable. OK, je continue. Je savais que ça, c'était le gros morceau. Si vous voulez, Matthieu 25, 32, c'est aussi une très bonne parabole qui parle de séparer les boucs et les brebis. C'est encore une fois des gens qui vont être sur la terre dans la dernière génération. Si ce n'est pas nous autres, c'est ceux qui vont être là dans les 7 années de la tribulation. Durant cette période-là, ici, il y a des gens qui vont croire. Et ça va se manifester par des œuvres. Ils vont voir que les Juifs se font persécuter à travers le monde. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les secourir. Ils vont aller les visiter en prison. Ils vont leur donner de la nourriture. Ils vont les héberger chez eux parce qu'ils vont voir que le gouvernement puis toutes les nations se tournent contre le peuple juif. Et ça va démontrer qu'ils croient au message aussi de ce peuple-là, le peuple juif. Et donc, toute cette parabole-là dit justement qu'il va y avoir des boucs. Toutes les nations vont être assemblées devant Jésus-Christ, les nations qui vont être encore vivantes sur la terre dans cette période-là. Et il va faire la séparation. Donc, vous avez ça dans Matthieu 25, verset 32 et suivant. Ça peut être intéressant de le lire en parallèle avec la parabole de l'ivraie. Prochaine parabole, la moutarde. N'as-tu qu'aimé ça? Mais, hein? La nouvelle publicité de Heinz, pas de Heinz, mais de... C'est qui déjà? French, c'est ça. tellement comique. OK. C'est une petite inside joke ici. Parabole, on va tourner dans Marc 4:30. Tourner dans Marc 4:30. La moutarde. Versets 26 à 29. Quel privilège de connaître Jésus-Christ, d'avoir connu la vie éternelle, puis de pouvoir avoir cette bonne nouvelle de l'Évangile pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Quel privilège. Marc 4:30. Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? » Ou par quelle parabole la représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, ou peut-être vous avez moutarde dans votre Bible, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte et devient plus grand que tous les légumes. Légumes? Je ne sais pas c'est quoi les légumes. C'est une joke. Et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Marc 4. 30 à 32. Peut-être que c'est 26 à 29, en tout cas, dans ce coin-là. Donc, ici, un contraste. Souvent, quand Jésus va dire le plus petit, comme un chameau d'entrer dans une tête d'une aiguille, il y a le petit à grand. Il y a donc quelque chose ici, une hyperbole qui est faite. Où ce que, dans la parabole, les choses sont exagérées. Et Jésus veut nous montrer quelque chose par là. La moutarde, c'est une plante annuelle. Elle grandit pendant à peu près 3 mois par année. Elle grandit rapidement et en quelques semaines, elle a atteint sa taille mature qui est d'être à peu près, pas tout à fait 1 mètre, 0,8 mètre. On s'en sert pour étouffer les mauvaises herbes. On s'en sert pour faire un engrais avant une culture. Elle lutte aussi contre la pollution dans le sol, des nitrates qui sont là, que ce n'est pas bon pour la culture. Elle vient lutter, elle vient faire un œuvre. Puis, elle vient aussi prévenir l'érosion des terres qui sont trop meubles, les terres qui se défraient trop, là, ça vient mettre comme du corps dans le sol. Donc, dans cette parabole-là, ce n'est pas l'usage normal. Avez-vous déjà vu un mauvais herbe devenir un arbre? Moi, chez moi, il y en a un sur le long. Je fais juste couper mon gazon, puis je passe toujours le taille-herbe, mais il y en a un que j'ai laissé aller. Puis à un moment donné, mon petit cordon de plastique, là, il ne peut plus rien faire pour ça. Là. Il est rendu, tu sais, puis il pousse sur le long du poteau électrique. Là. Je me suis dit, à un moment donné, la ville, ils vont sûrement venir l'enlever. Là. Mais un mauvais herbe qui devient un arbre. Bien, ici, c'est la moutarde. C'est une herbe qui est utile, mais qui devient inutile parce qu'elle devient beaucoup trop grosse. Elle devient tellement grande que les oiseaux peuvent venir s'y percher. Et donc, la parabole des 4 terrains, c'est la première parabole qu'on avait étudiée, était la clé pour pouvoir comprendre les autres paraboles. Ils ont dit, on ne comprend pas la parabole des 4 terrains. Puis Jésus leur avait répondu dans le même chapitre, regardez le verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? C'est comme si la parabole des 4 terrains était la clé. Tu sais, comme quand tu joues à un jeu Escape Room ou quelque chose comme ça, il faut que tu trouves la combinaison d'un cadenas pour aller ouvrir un autre, une chasse au trésor. Tu découvres une énigme, puis une fois que tu as découvert une énigme, il faut que tu peux découvrir l'autre. Bien, la parabole des 4 terrains est comme une clé pour les autres. Hein? Et dit, vous n'avez pas compris la parabole des terrains? Comment est-ce que vous allez comprendre les autres paraboles? Et dans cette parabole-là, il y avait les oiseaux du ciel. Rappelez-vous? Les semences étaient tombées sur le sol, les oiseaux étaient venus voler, puis Jésus a dit, le malin vient et enlève. Le malin, donc le diable, vient et enlève la parole qui a été semée dans leur cœur. Là, c'est un arbre qui, au lieu de faire 0,8 mètres, il y a des grandes branches, puis il sert de perchoir pour les oiseaux du ciel. L'antagoniste, ici, dans ce verset-là, c'est une croissance anormalement trop grande. OK? Puis, c'est sûr, le malin qui vient mettre ses pattes là-dedans. Dans l'ère du mystère, l'Église devient trop grande par rapport à ce qu'elle est en réalité. Donc, on a dit depuis le début, l'ère du mystère, quand on va dire le mot Église, ça ne sera pas ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus puis qui sont sauvés. Ça va être ceux qui font partie du royaume, qui ont accepté Jésus-Christ. Ils font partie du royaume spirituel. Et ceux qui paraissent à être sauvés, mais qui ne le sont pas. OK? Donc, le christianisme est devenu un arbre plus grand que nature ou plus grand que ce qu'il est supposé d'être en réalité. Donc, Jésus n'a pas encore commencé son Église dans la Pentecôte, qui est encore vivant, puis il est en train d'annoncer que le royaume de Dieu est sans l'homme, un petit grain de moutarde, mais qui devient un arbre géant, et les oiseaux du ciel viennent se percher dedans. Ça, c'est intéressant. Donc, il nous avertit que les églises entières du christianisme ne seront pas composées de chrétiens, et parfois même, il y a des églises qui ne seront même pas des gens qui font partie du royaume. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir tellement changé au niveau de leur enseignement que ce n'est plus les enseignements de Jésus-Christ. Par exemple, le moyen pour être sauvé, le moyen par lequel une personne va au ciel. Et ça va faire qu'il y a des branches complètes du christianisme ça porte plus le fruit de la moutarde. Qu'est-ce qui arrive avec ces petits arbres qui sont supposés de produire de la moutarde puis qui deviennent des géants d'arbres? On dit encore de la moutarde, où vous êtes ça? Je serais curieux, j'aimerais ça que Mirella soit ici pour nous répondre. Peut-être que vous le savez aussi. Mais il y a un éloignement important des enseignements de Jésus, puis une croissance visible plus grande que normale. Le malin trouve une manière de venir s'y suspendre et faire ses activités dans le monde. Ce sont des faux enseignements, la promotion du péché chez les autorités, des fraudes, etc. L'arbre de cette taille-là ne sert plus à l'utilité première qui est de se multiplier, produire du fruit, etc. Quand Jésus a bâti l'Église puis a dit « Je vais bâtir mon Église », c'est une unité organique de vrais croyants. Et il nous avertit que, dans le fond, ça peut scléroser, ça va scléroser en plusieurs branches, en un plus grand arbre. Ça ne servira pas toujours le but premier et ça ne produira pas le fruit de se multiplier. Donc, Jésus, c'est comme très réaliste quand il a dit « Je vais bâtir l'Église », qu'il y aurait tout ça. Dans l'Apocalypse, il y a 7 lettres qui sont écrites aux églises et il y a une des églises qui s'appelle Laodicée. Puis il dit, tu te crois riche, tu te crois supérieure, tu te crois grande. Puis Jésus va lui répondre qu'elle est pauvre, que c'est une église qui est pauvre, qui est misérable et qui est nue. Et quand elle se regarde par rapport au reste du monde, elle se dit être vêtue et riche et elle dit, regarde, j'ai besoin de rien, j'ai tout ce que j'ai besoin. J'ai développé une autonomie. Mais quand elle se regarde face à son Créateur, Jésus envoie une lettre au pasteur de cette église-là, puis il dit, « Hey, yo, tu te penses vêtu, mais tu es nu. Puis tu as besoin de discernement. » L'église de Laodicée a besoin d'un collyre pour ses yeux pour constater son propre état. Et donc, c'est l'importance de ne pas juste être cette église qui paraît dans le monde, cette église qui a grandi dans le monde, mais c'est une église qui ne se laisse pas gagner par le monde. Une église qui s'est laissée gagner par le monde pour gagner le monde est gagnée par le monde. On ne devrait pas vouloir être des grandes églises. On ne devrait pas vouloir être une grande église. On devrait vouloir être des chrétiens qui porte du fruit pour Dieu. Puis un petit plant de moutarde qui fait sa job. Il se multiplie dans d'autres grains de moutarde qui vont porter leur job, puis dans d'autres grains de moutarde qui vont porter leur job. Puis l'idée, ce n'est pas de grandir numériquement qui est important, c'est de grandir dans l'obéissance à Jésus-Christ puis reproduire le même genre de chrétien. C'est ça que Jésus-Christ, quand il a parti son Église, il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » C'est quoi la limite? Toutes les nations. Est-ce que Dieu veut atteindre toutes les nations? Oui. Oui. Est-ce que Dieu veut qu'on devienne tellement une grosse affaire que tout le monde nous voit de loin? Non. Il veut que l'Évangile se répande dans les maisons, dans les familles. Il veut que la connaissance de Jésus-Christ se répande. Il ne veut pas qu'on devienne un petit grain de moutarde qui est devenu tellement grand qu'il ne sert plus à l'utilité première, à part que d'être vu comme grand dans le monde. Donc, le désir d'une église est de porter des fruits pour Dieu et de se multiplier dans son obéissance. Peut-être des plus petits arbres, mais ils portent en eux le désir de voir d'autres obéir à Christ. Dernière parabole aujourd'hui qu'on regarde, c'est la parabole du levain. La parabole du levain. Quand Jésus il donnait des paraboles, il disait souvent des enseignements sur des choses quotidiennes que les gens faisaient à chaque jour, comme faire du pain, par exemple. Jésus leur dit dans Matthieu 13, 33, il leur dit cette parabole. « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Quand une femme est utilisée dans la Bible au sens figuratif, c'est toujours un système religieux ou un système de croyance. Quand c'est du côté positif, par exemple, Israël, le peuple de Dieu, est appelé quoi? Israël est comparé à une femme dans la Bible, l'épouse de Dieu. Lorsqu'on parle de l'Église, elle est comparée à quoi? L'épouse de Jésus, la fiancée, l'épouse à venir. Hein? Quand elle est comparée à quelque chose de négatif, c'est un faux système de croyance. Jézabel, dans Apocalypse 2:20, elle enseigne dans l'Église, elle enseigne n'importe quoi. Puis elle enseigne l'idolâtrie dans l'Église, finalement. Puis elle enseigne, puis il y a de l'immoralité sexuelle dans cette Église-là, là, dans Apocalypse 2:20. Jézabel, un faux système de croyance. Aussi, il va y avoir une religion mondiale hein, dans la Grande Tribulation. Elle est comparée à quoi? À la religion mondiale? Oui, c'est ça, la grande prostituée. On voit ça dans Apocalypse 17. Donc, une femme ici est en train de pétrir son pain. Donc, c'est un système de croyance. On parle ici d'un système de croyance, si c'est utilisé au sens figuratif. Et le levain est presque toujours comparé au péché. Hein? Puis dans les évangiles, le levain est toujours relié à des fausses doctrines, des faux enseignements. Donc, le point qui est important à comprendre, puis c'est pour ça que dans la dernière église ou dans les dernières églises, avant que Jésus-Christ revienne, ça va demander du discernement. Pourquoi? Parce que dans le pain, dans les systèmes de croyance, dans les religions, il va y avoir 3 pelletés ou 3, pas de raisins secs, mais de levain. Okay? Et donc, il y a 3 grandes, ça c'est Ariel qui propose ça, je lui laisse nous le proposer, je n'ai pas vérifié vraiment, mais je trouve ça intéressant. M. Fruttenbaum du ministère Ariel dit que dans le christianisme, il y a 3 grandes divisions, le catholicisme, l'orthodoxie et les protestants, nous autres. Et puis, dans chacune de ces grandes branches du christianisme, il y a une certaine dose de levain, de fausses doctrines, de faux enseignements. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est exactement ce que Jésus-Christ a voulu dire, que la femme représentait un système religieux puis qu'il y aurait du levain dans la pâte, bien, encore une fois, ce n'est pas idéaliste de la part de notre Seigneur Jésus. Vous avez souvent entendu l'expression « là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie ». Eh bien, dans les systèmes religieux, que ce soit le nôtre, le catholicisme, ou encore chez les orthodoxes, il y a de la pâte, il y a du bon pain, il y a du bon blé, c'est super, mais il y a un levain qui s'est introduit dedans, qui ce sont des enseignements qui sont contraires ou différents de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, ça y donne une ampleur beaucoup trop grosse que c'est supposé d'avoir. Puis je pense qu'une des raisons pour ça, pas juste là, mais une des raisons, c'est que l'Église veut être socialement acceptée dans son milieu. Par exemple, dans l'Église unie, on ordonne des ministres homosexuels depuis 1972. En 2005, le synode général a passé une résolution qui dit que la Bible affirme et célèbre l'expression humaine du partenariat pour parler de l'homosexualité. Aujourd'hui, on est dans un monde où si tu parles sur l'homosexualité ou sur la fornication, les liens en dehors du mariage, tu vas te faire faire ce que Jean-Baptiste a fait quand il a parlé sur le mariage d'Hérode, là, tu sais. Tu vas devenir impertinent dans ton siècle. Puis on a le désir de grandir, de devenir, tu sais, d'être pas populaire, mais crème, que les gens entendent parler. Puis les chrétiens commencent à décrire le péché comme quelque chose de socialement inacceptable. Comme par exemple, ce qui n'est pas utile pour la société est péché, ou ce qui n'est pas utile est péché. Mais c'est beaucoup plus que ça, le péché. Le péché, c'est une offense contre un Dieu saint. Mais parce qu'on veut être accepté par le monde, on va dire que ce n'est pas profitable. Par exemple, est-ce qu'un homosexuel peut se reproduire? Non, donc c'est péché. On va rester là. Alors que la Bible, l'enfer. Présentement, là, on les compte sur les doigts, les églises chrétiennes qui croient encore qu'on est une jeune terre, qu'on a été créé il y a juste quelques milliers d'années. Pourquoi? Parce que l'Église veut être socialement acceptée par son milieu. Elle laisse entrer des croyances, parce que ce sont des croyances, la vieille terre aussi. Elle laisse rentrer dans ses croyances un levain et ça fait lever toute la pâte, cette affaire-là. En passant, je crois que l'homosexuel, comme l'hétérosexuel, a besoin du même accueil et du même amour. Hein? Mais on a défini ça comme un genre et non comme un péché. Puis l'Église, elle en rentre dans ces affaires-là. J'ai reçu des articles que j'ai analysés, que j'ai regardés, que je ne peux pas nécessairement citer, mais que je trouvais ça intéressant. On commence à appeler le péché comme étant une préférence, quasiment, tu sais. Ah, c'est sa préférence. Puis, on ajoute dans ça, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on perd tout notre impact. Est-ce que c'est surprenant? Non. Jésus a dit que la force antagoniste durant la période de l'Église, ce serait une pâte dans laquelle on mettrait du levain. Il nous l'a dit, que les fausses croyances viendraient se joindre dans ça. Et c'est pour ça que c'est le temps de développer notre discernement et de revenir à l'Écriture. Comme à la Réforme, on dit « sola scriptura », on revient à l'Écriture, puis on l'étudie, cette Bible-là, on prend des cours, puis on apprend à justement essayer d'analyser, de comprendre les raisonnements dans notre monde. Et nous, si ce que Jésus-Christ nous dit, que la femme, c'est un système religieux, puis qu'il y a trois paquets de levain, et que ça représente les protestants, les catholiques et l'orthodoxie, ça veut dire qu'on n'est pas exempt dans notre pâte, d'avoir, et on en a, de l'erreur. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier puis dire, OK, on n'a pas atteint la vérité, mais on la cherche, par exemple. Puis on va essayer de trouver qu'est-ce qui est vrai. Puis tout ça. Fait qu'aujourd'hui, c'était comme réaliste comme message. C'était pas comme, waouh, l'Église, yeah! Jésus annonce déjà qu'il va bâtir son Église puis que le séjour des morts va se lever contre son projet. Tu sais. Qu'il y en a un qui va venir la nuit planter des personnes exprès pour qu'il y en ait qui ne croient pas durant cette heure-là. Il nous avertit, c'est quoi qu'on a vu, qu'il y aurait du visible puis il y aurait du vrai. Il nous a averti qu'il y aurait une certaine dose de levain dans chacun des mouvements religieux dans l'ère du mystère. S'il n'y a rien à sauter sur les toits, il n'y a rien d'excitant là-dedans. Par contre, j'aime mieux écouter quelqu'un qui dit « Je pars un projet, ça va brasser, il va y avoir du faux, il va y avoir du vrai, il va y avoir des antagonistes, mais je vais bâtir mon église. » Que de partir avec quelqu'un qui dit « Tout beau, tout le monde est fin, tout le monde est gentil, tout le monde est sauvé. » Puis que, tu sais, il prépare ses disciples. Puis je réalise que les paraboles sont utilisées pour nous dans la période de l'Église, puis le livre de l'Apocalypse va être utilisé par ceux qui vont passer dans la grande tribulation. Autant vrai que les paraboles sont vraies pour nous qui sommes dans l'ère de l'Église et du mystère, autant vrai, l'Apocalypse va devenir, « Hey, c'est quoi les temps dans lesquels on est? » C'est quoi les temps? Ah, OK. Ah, il y a un système religieux. OK, la grande Babylone. Ah, la marque de la bête. Ah, puis là, ils vont comprendre, puis ils vont appliquer pour les détails. Donc, c'est très pratique pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez que ça nous amène à appliquer comme dans notre marche chrétienne? On va arrêter l'enregistrement ici. On va pratiquer la Sainte-Cène aussi après. Mais on va arrêter.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.